Un soir, ma mère me réveille et me dit « On entend des bruits de canon. » C'était les troupes à Rommel qui arrivaient sur Port-Bail. Enfin, ça remuait à Port-Bail. Hein.
C'est l'histoire de Désiré Le Fauconnier, cet homme quasiment inconnu qui s'est engagé à 17 ans dans la 2e division blindée de Charles Leclerc. C'est Olivier Félibiollet, réalisateur de films fiction et de films documentaires, qui met en lumière la vie de cet homme et qui nous fait découvrir son passé. Bonjour Olivier.
Bonjour Axel.
Alors avant de commencer à parler de votre dernier documentaire en date, Le gars des Calouins, qui fait d'ailleurs référence à un surnom donné à Désiré, parlez-nous de vous et de vos débuts dans le cinéma.
Donc le milieu du cinéma, j'y suis depuis 7 ans et avant j'ai eu deux autres vies professionnelles, une vie dans le milieu de la justice et une vie dans le monde de l'entreprise. Mon rapport au cinéma, je l'ai découvert en fait quand j'ai fait ma formation à la Sorbonne à Paris 1, cinéma, où je me suis dit... Effectivement, je pense que dès l'enfance, dès l'adolescence, il y avait quelque chose au fond de moi, mais qui n'avait pas encore émergé. Voilà, et qui a fini par émerger assez tard, puisque ça a émergé quand j'avais 43 ans.
Alors donc, parlez-nous un peu de vous. Vous avez grandi dans la région, plus précisément à Choisy-au-Bac. C'est là que vous avez commencé à réaliser vos premiers tournages ?
Alors, Choisy-au-Bac, effectivement, c'est là où j'ai grandi, jusqu'à ce que je parte à l'université à Amiens. Sur les 6 films que j'ai tournés aujourd'hui, il y en a 5 qui ont été tournés à Choisy-au-Bac, dont le premier.
Est-ce que vous vous rappelez justement du moment où vous vous êtes dit « ça y est, je me lance, j'essaye de faire mon premier court-métrage », est-ce que vous pouvez nous raconter ?
L'objet de la soutenance et du mémoire de ce master professionnel cinéma était d'écrire un court-métrage. Donc j'ai écrit un film qui s'appelle « L'air d'un oubli ». Je n'avais pas l'intention de le réaliser. Je me souviens, on était à France Télévisions, on présentait des films qu'on avait tournés dans le cadre de la formation, des courts-métrages, et un producteur me dit « Mais pourquoi L'air d'un oubli, tu ne le tournes pas ?» Je lui dis « Mais parce que j'y connais rien. » Il me dit « Mais tu sais t'entourer ?» Je lui dis « Ah oui, ça je sais faire. » Et c'est comme ça que je suis parti dans cette aventure. Et avec beaucoup de naïveté, j'ai sollicité un comédien. J'avais vu juste sa photo qui me plaisait. J'ai envoyé le scénario à son agent. Son agent m'a dit « Il veut faire le film. » Voilà, et tout est parti comme ça.
Donc, dans le film « Le gars des Calouins », qui est l'un des derniers en date que vous avez écrit et réalisé, vous mettez en avant l'histoire d'un soldat plus ou moins inconnu qui a vécu les horreurs de la guerre. Il a notamment participé à la bataille de Normandie ainsi qu'à la libération de Paris. Comment vous avez rencontré Désiré Le Fauconnier, ce soldat inconnu ? Quel était le lien qui vous unissait ?
Le lien dont on a parlé tout à l'heure, Choisy-au-Bac. Voilà, puisque je le connais depuis l'enfance, c'était le voisin de mes parents, donc la maison juste en face. Je l'avais sollicité pour un de mes précédents films. La dernière séquence du film se tournait au monument mort de Choisy-au-Bac. Et j'avais besoin d'un porte-drapeau pour l'association des déportés NN. Il n'y avait plus de porte-drapeau. Et j'ai demandé à Désiré s'il acceptait de tenir ce drapeau au moment de la cérémonie. Et lui, qui ne sortait plus de chez lui, a accepté. Donc à l'époque, il avait 93 ans. Il était très fier, du coup, régulièrement, j'allais chez lui quand je venais à Choisy-au-Bac. Et en décembre 2021, c'est comme ça qu'en lui faisant une visite de courtoisie, est née cette envie de le filmer.
Et ça a été quoi, sa réaction ?
Il a dit tout de suite oui. Voilà. Donc en fait, c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire qu'en décembre 2021, je passais Noël chez mes parents et je décide d'aller lui rendre une visite de courtoisie. Et à ce moment-là, on est en décembre 2021, les tensions entre la Russie et l'Ukraine se tendent. Sérieusement. Et là, on parle d'actualité et Désiré, il a 95 ans à ce moment-là, me regarde droit dans les yeux et me dit « c'est pas possible que ça recommence ». Donc là, on a des frissons quand un monsieur de 95 ans vous dit ça. Et là, spontanément, il se met à me parler de sa guerre à lui quand il s'engage dans la 2e DB et qu'il va aller libérer la France, donc avec tout ce parcours qui va l'amener jusqu'au nid d'aigle d'Hitler.
Donc du coup, Désiré, il s'est confié à vous. C'était un homme comment ? Est-ce que justement, il avait l'habitude d'en parler de son passé ou c'était un homme qui gardait un peu ça pour lui ?
Alors, il en parlait beaucoup, mais auprès de ses proches. Si bien que Jean-Patrick, son fils, que je connais bien, me disait « Oh là là, tu sais, on a tellement parlé de tout ça. » Quand je lui ai dit « On va filmer », il dit « Oui, oui, filme-le, c'est bien. » Il dit « Moi, tu sais, j'ai entendu parler. » Mais par contre, on en a parlé encore la semaine dernière, puisque je suis allé projeter en Bourgogne où vit son fils. Et je lui ai reposé la question, je lui ai dit « Mais ton père, est-ce qu'il en parlait, justement ? Est-ce qu'il a été témoigné auprès d'établissements scolaires ? Est-ce qu'il a été en parler en public ?» Il dit « Non, ça par contre, il ne l'a jamais fait. » Effectivement, c'est des choses qu'il a gardées dans un cercle restreint.
Il avait quel âge justement notamment lorsqu'il s'est engagé dans la seconde division blindée du général Leclerc. Pardon.
Général Leclerc, oui. Donc, général Leclerc, hein, qui, le lapsus avec De Gaulle est tout à fait justifié, puisqu'en fait, Leclerc est l'un des premiers qui rejoint De Gaulle à Londres, dès août 1940. Désiré va s'engager, lui, trois jours après, et là, il ment sur son âge, parce qu'il a 17 ans.
Ah oui, il faut avoir 18 ans.
Voilà. Alors, c'était toléré. Il y avait d'autres jeunes de 17 ans au sein de la division, mais il n'y avait pas en deçà de 17 ans.
Ma vie d'adolescent est ainsi. Un jour, j'assiste, effrayé, à la mort de soldats qui explosent en posant des mines dans les dunes. Un jour, j'assiste, émerveillé, aux danses du sabre de soldats géorgiens sur la place du village.
Nous sommes en compagnie du réalisateur Olivier Philippe Zollet qui nous parle de son dernier documentaire en date, Le gars des Calouins. Alors, vous venez de le dire, Désiré Le Fauconnier, il s'engage à l'âge de 17 ans. Pourquoi ? D'où lui vient cette idée de s'engager aussi jeune ?
Alors, pour comprendre pourquoi il s'engage à 17 ans avec 5 copains de son village, parce qu'on se dit, moi, quand je me reporte à mes 17 ans, j'étais ici à Compiègne, hein, au lycée. Je pense que j'aurais pas eu ce courage de m'engager pour libérer mon pays, mais en même temps, j'ai pas vécu les mêmes choses. Pour comprendre, c'est que lui a vécu toute son adolescence pendant l'occupation, c'est-à-dire 4 ans de son adolescence où il se forme comme un jeune homme, c'est-à-dire qu'il va de 13 ans à 17 ans. Il a en plus une charge de famille. Son père est décédé avant la guerre et il est l'aîné des garçons d'une famille de 9 enfants. Donc il doit nourrir sa famille. Il va travailler à l'âge de 13 ans dans une boucherie pour nourrir sa famille. Et il se sent responsable. Lorsque les Alliés débarquent, il y a un mouvement spontané chez lui. C'est un mouvement de libération, je pense, pour lui-même déjà. C'est-à-dire qu'il a vécu que sous l'oppression, sous l'occupation. Et donc il y a ce mouvement de libération de la jeunesse et aussi des valeurs profondes ancrées à l'époque, dans la patrie, dans la nation.
Et à partir de ce moment-là, justement, son quotidien, il ressemble à quoi ?
Au sein de la 2e DB ?
Oui.
C'est assez rude, parce qu'il s'engage le 3 août 1944, et trois jours après, il se trouve dans la bataille de Normandie. C'est-à-dire qu'il faut imaginer quand même qu'il n'a jamais tenu une arme de sa vie. Et là, on se retrouve avec une arme. Il va se retrouver à tuer ses premiers hommes. On fait quand même attention, c'est des gens qui n'ont pas eu de formation militaire, donc il est sur ce qu'on appelle un AFTRAC, qui est un véhicule, un blindé. Et là, il a une mitrailleuse, et en fait, lui, il doit tirer sur les chars.
On m'avait donné un livre pour reconnaître les chars allemands. Donc j'avais mon canon de 57 anti-chars.
Voilà, c'est sa mission de reconnaître les chars, de tirer sur des chars. Et il va être jusque Paris, comme ça, dans ce AFTRAC. Et après la libération de Paris, là, on va lui donner une autre mission. Il va être dans ce qu'on appelle un obusier. Un obusier, ça ressemble un peu à un tank, mais un peu plus petit. Et donc, il va être avec 5 autres camarades dans cet obusier, où leur mission va être d'être en arrière des troupes pour tirer ses obus vers l'ennemi.
Lui, comment est-ce qu'il décrit ses premiers moments, son quotidien comme ça qui change ?
Quand il est revenu de tout ça, il y a une phrase qui est très belle et que j'ai mis au tout début du film pour lui rendre hommage. C'est « Depuis, je suis un homme toujours heureux et libre ». C'était quelqu'un qui plaisantait beaucoup. Nous, on l'a connu, hein, toujours dans le village. Quelqu'un qui aimait raconter des histoires drôles, d'avoir toujours le sourire. Et c'est ce qui l'a ramené de cette guerre. Tout le long du film, il raconte les choses avec une certaine légèreté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est blessé, il a juste un obus qui tombe à côté de lui, il a le poumon perforé, voilà, il est blessé à la jambe, au bras, enfin voilà, il est évacué, il va être opéré dans des conditions assez incroyables. Il survit, mais tout ça, il raconte, voilà, j'étais blessé, voilà, on m'a évacué, puis je suis revenu, parce que la guerre n'était pas finie, donc je revenais avec les copains. Le seul moment où il a refusé de me répondre, où il y a eu vraiment un moment de gravité absolue, où là, il n'a pas du tout utilisé de légèreté, c'est quand, dès décembre 2021, quand je bois le café avec lui, il me parle de leur arrivée à Dachau, camp de concentration. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas où ils arrivent. La 2e DB se sépare entre le nord et le sud de Munich, et lui arrive au nord de Munich, devant ce camp de concentration, et ils font partie des premiers. Et là, ils découvrent l'horreur. Ils n'ont pas le droit de descendre de leur blindé, puisqu'il y a le typhus. Et ils voient tous ces gens qui sont libérés, mais dans le camp, affamés. et donc ils prennent tout ce qu'ils ont dans leur obusier et ils le jettent par-dessus le grillage, c'est-à-dire ils ont du chocolat, ils ont du pain, ils ont et même des chewing-gums, ils jettent aux gens qui se jettent dessus parce qu'ils sont vraiment affamés. Et il décrit un peu ce qu'il voit, ses corps, etc. Et la question que je lui pose, déjà, quand il me raconte ça, je lui dis, mais Désiré, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, à ce moment-là ? À 95 ans, il était un peu sourd. Il fallait lui répéter deux fois, trois fois, voire quatre fois la même question. Et là, il faisait comme s'il ne comprenait pas. Son fils se penche vers moi et me dit, il ne te répondra pas. Et à l'interview, je suis revenu à la charge. C'est-à-dire, quand il parle de Dachau, je lui dis, mais Désiré, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, personnellement ? Et là, à nouveau, il me fait le monsieur très sourd qui ne comprend pas. Son fils va plus loin, il lui écrit sur l'ardoise. Voilà. Et non, il ne répond pas. Il répond à côté, et ça, il n'a pas voulu l'exprimer, il l'a gardé, comme l'ont gardé beaucoup d'anciens déportés qui en parlaient entre eux, mais ils ne l'exprimaient pas aux autres. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a incité à faire ce film, et on l'a laissé d'ailleurs à l'image, on a laissé son silence. Et de ce silence, on comprend beaucoup de choses.
Voilà, le silence parle de lui-même. Quels sont les autres intervenants dans ce documentaire ?
Alors, quand on a décidé de faire ce film, parce que c'est aussi un concours de circonstances, c'est-à-dire qu'au départ, je fais des images conservatoires, mais pas pour faire un film, et il se trouve que quelques semaines après, je me retrouve au Fort d'Ivry, où il y a les archives militaires françaises, donc audio et vidéo, et là, je rencontre le grand, c'est un hasard, voilà, d'être là, présent, de la 2e DB en France, donc le grand spécialiste. Et là, il me montre des images, il me montre plein de choses, et on se dit, mais ce serait super de faire un film. Désiré, je l'ai interviewé pendant 1h15, ce qui est insuffisant parce que vu son âge, il est fatigué, il n'a pas pu raconter toute son histoire. Donc j'avais des trous. Et là, ce spécialiste qui est Alain Aymar, je dis Alain, est-ce que tu accepterais de toi raconter la grande histoire, donc toute cette épopée de la 2e DB, et Désiré vient raconter toute sa petite histoire à lui et ses anecdotes. Il me dit avec grand plaisir, j'ai jamais fait, mais ok, faisons-le. Je me disais, ah, ça serait bien de mettre un peu plus de dynamisme dans le film, d'avoir d'autres témoignages. Et c'est là où je rencontre Bénédicte Leclerc de Haute Cloque, qui est la petite fille du général Leclerc. Et très rapidement, elle me dit, oui, ça me ferait plaisir de venir parler de l'histoire de mon grand-père, de témoigner. Je rencontre aussi le général Michel, qui est le président de la fondation du maréchal Leclerc, qui me dit, bah, avec grand plaisir, pour venir témoigner aussi de cette épopée. Et c'est comme ça que ça se fait. Donc je vais rencontrer aussi le maire du village d'origine de Désiré, c'est Port-Bail, dans le Cotentin, qui me dit aussi, bah, écoute, partons pour raconter cette histoire. Quand je suis arrivé en montage, j'avais encore des trous, parce que je racontais la grande histoire et la petite histoire, mais j'avais des trous dans la petite histoire. La petite histoire, celle de Désiré, en 1h15, il n'a pas pu tout me raconter. Et heureusement, c'est qu'il y a 30 ans, il avait écrit ses mémoires. Et je me suis donc basé sur ses mémoires pour écrire une voix off qui est la sienne quand il a 17 ans. Et il raconte en même temps, donc on a le monsieur de 96 ans et le monsieur de 17 ans qui racontent cette épopée.
Français, enfin voici l'heure tant attendue. Nous remettons le pied sur le sol de la patrie. Il y a 4 ans, nous quittions la France. Répondant à l'appel du général de Gaulle, abandonnant nos familles, décidés à ne pas déposer les armes avant la victoire. Nous rentrons aujourd'hui aux côtés de nos alliés, à la tête de troupes françaises. Debout, Français, aidez-nous.
Olivier Philippe Viollet ne compte pas s'arrêter là, il vient de déposer un projet de série historique en fiction appelé « Entre leurs mains ». L'histoire retracera l'après-guerre, une période qui a été assez peu filmée. Seront abordées des questions telles que comment on tourne la page et comment on se reconstruit après les traumatismes laissés par la guerre. Le Gars des Calouins présenté par Olivier Philippe Viollet, un reportage d'Axel Corby pour Radio Graphite.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.